12. J'aime toujours entre guillemets, les hasards du calendrier. Vous savez que nous progressons dans livre après livre dans la Bible. Et il se trouve que, alors que nous parlons de nous réunir pour nous constituer en association cultuelle, et nous espérons que ce sera une nouvelle phase dans la vie de notre assemblée, de notre église. Une phase où j'espère vous vous sentirez davantage concerné pour vous impliquer dans la vie de l'église. Si nous avons un local à aménager, j'imagine qu'il y aura de l'enthousiasme pour le mettre en œuvre, pour l'arranger, mais aussi pour tous les aspects du service dans l'église. Servir Dieu, c'est le servir en servant les autres, notamment dans l'église et bien sûr au dehors. Et pour servir Dieu, bien sûr, on peut le faire avec nos talents naturels, les dons naturels qu'il a pu nous donner. Mais nous abordons dans notre étude 1 Corinthiens le passage qui va parler des dons spirituels. Et cette étude va nous aider, j'espère, à découvrir pour chacun de nous quels sont nos dons et comment nous pouvons les mettre au service de la communauté, au service de Dieu, au service des autres. Ces dons spirituels, ce sont, à l'inverse des dons naturels, des talents que quelqu'un reçoit à la naissance, ce sont des talents, des capacités à servir Dieu que Dieu nous donne selon son bon vouloir. Et nous verrons qu'il n'y a pas de favoritisme. La Bible nous assure que nous avons tous au moins reçu un don. Elle nous invite à désirer ardemment les dons les meilleurs. Et souvent, les dons les meilleurs, ce n'est pas nécessairement les plus spectaculaires. Les dons les meilleurs, c'est ceux qui sont nécessaires et adaptés à la tâche qui est devant nous. Le pasteur Chuck Smith de Calvary Chapel en Californie aime à dire que chez lui, il a plusieurs types de scies. C'est un grand bricoleur devant l'Éternel. Et il a des scies il doit avoir une dizaine ou une vingtaine de différentes scies. Il a des scies à métaux, des scies à bois, des petites scies sauteuses, des scies circulaires. Et il dit qu'en fait, la meilleure scie, il ne peut pas dire voici la meilleure scie. Il dit c'est en fonction de la tâche que j'ai à accomplir, voici la meilleure scie. Si je dois scier un tube de plomberie, la scie à métal va être la meilleure outille. Si j'essaye ma petite scie à découper le bois sur un gros tube en plomb, ça va détruire la scie. Et de la même façon, on verra plus loin que les dons les meilleurs, ce sont ceux qui s'adaptent à la tâche qui est devant nous. Nous arrivons donc dans ce chapitre 12 qui commence une nouvelle division dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, puisque ça fait quand même déjà près de 4 ou 5 mois que nous avons commencé à l'étudier, on va faire un petit rappel de ce dont elle parle. La première partie, c'était une introduction de quelques versets, avec un verset clé qui était le verset 9 du chapitre 1. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, par Dieu. Dieu qui est fidèle, il continue de nous appeler, il continue de nous rendre capables d'avoir cette communion avec son Fils, Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et quelqu'un a dit, l'important en toute chose, c'est de veiller à ce que la chose la plus importante reste la chose la plus importante. En anglais, c'est the main thing is to see that the main thing remains the main thing. Je le dis parce que c'est un code bien connu. Et donc, ça veut dire que quelle est cette chose la plus importante dans la vie du chrétien? La chose la plus importante, c'est d'avoir cette communion avec Christ. C'est d'apprendre à marcher jour après jour, à chaque instant dans cette communion. C'est là qu'on trouve la force, c'est là qu'on trouve la sainteté, c'est là qu'on trouve l'amour, c'est là qu'on trouve la grâce, la paix, la joie. Et mon souhait, bien sûr, lorsque nous transformons en une association reconnue, etc., c'est que cette vision de Christ soit toujours la chose principale dans nos rassemblements, dans nos activités, dans notre vie commune. Vous m'avez souvent entendu demander la prière pour les statuts, parler des statuts. Les statuts sont une bonne chose requise par le gouvernement qui nous permet de définir des règles de fonctionnement pour l'association, mais que l'aspect juridique ne prenne jamais le pas sur la spontanéité de la relation avec Christ. Que ce soit toujours lui qui nous motive, soit lui qui nous inspire, que ce soit lui qui nous dirige. Et c'est vrai qu'il faut... Une des parties difficiles, c'est de faire que ces statuts, qui sont des règles juridiques que lues par des légistes et des administrateurs, puissent refléter cette vérité profonde. L'Église, c'est pas une organisation, c'est un organisme vivant dont Jésus est la tête. Et donc... nous sommes appelés à la communion avec son Fils. Et ça, c'est le verset clé, en quelque sorte, de 1 Corinthiens. Nous savons que la lettre, c'est une lettre de reproche, en fait. C'est pas une lettre pour complimenter, c'est une lettre pour dire tout ce qui ne va pas dans l'église de Corinthe. On peut toujours regarder les choses négatives et critiquer, ou on peut voir ce qui est positif et encourager cette chose positive. Et d'entrée, c'est ce que Paul disait, il a dit, notre vie, nous, c'est de suivre Jésus, c'est d'être en communion avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une réunion de Calvary Chapel en Autriche, qui regroupait différentes églises Calvary Chapel en Europe. Nous étions près de 300 à 400 personnes. Et bien souvent, il n'y a pas de thème prévu par les organisateurs, c'est en quelque sorte au fur et à mesure des réunions que l'on voit un thème se dessiner. Chacun des participants qui doivent amener un message partage quelque chose que le Seigneur leur a mis sur le cœur, et c'est toujours intéressant de voir qu'en fait il ressort de ces différents messages un thème voulu par Dieu, un thème inspiré par l'Esprit Saint au travers de plusieurs personnes. Et cette fois-ci, cette année, c'était encore une fois la communion intime avec Jésus-Christ. On nous a rappelé que, et ça c'était destiné à des responsables, à des pasteurs, des missionnaires, des gens qui sont impliqués dans le service de Dieu de façon continue ou très forte, du moins un pourcentage de leur temps. Et on nous a rappelé une chose très simple, très bête, mais qu'il faut lire sa Bible et prier chaque jour de l'année. Vous vous souvenez, quand je suis rentré, j'étais tellement enthousiasmé par cette rime que je vous ai fait à tous répéter. Il faut lire sa Bible et prier chaque jour de l'année. Pourquoi? C'est pas pour avoir pouvoir cocher des cases et avoir des bons points parce qu'on l'a bien fait. Non, c'est parce que c'est une façon de s'assurer que nous allons tourner nos yeux, nos regards vers Jésus-Christ, que nous allons recevoir de lui, qu'il va pouvoir nous interpeller dans les temps de calme devant lui, de silence devant lui. Un leitmotiv qui est revenu, c'était que occupez-vous de la profondeur, il s'occupera de l'ampleur. Sous-entendu, occupez-vous de la profondeur de votre relation avec lui, et il s'occupera de l'ampleur de votre service, de votre ministère. Ne cherchez pas à bâtir une grande église par vos propres moyens. Cherchez à le connaître, à le servir en profondeur. Et c'est lui qui s'occupera s'il le désire, de faire grandir comme il le veut. Et donc, cette chose principale reste la chose principale dans chacune de nos vies et dans la vie de notre Église. Paul continue la lettre en devenant plus direct et en reprochant un certain nombre de choses aux Corinthiens. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des divisions, il y avait des cliques, il y avait ceux qui se réclamaient de tel ou tel prédicateur, il y avait des disputes. Il y avait aussi l'orgueil de la sagesse humaine et ses conséquences qui donnaient un esprit d'indépendance, un esprit d'autonomie qui laisse Dieu de côté, en dehors de nos vies. Il y avait aussi des problèmes d'immoralité sexuelle. Une sexualité mal comprise, exercée en dehors du mariage, qui conduisait à toutes sortes de problèmes. Nous avons parlé du mariage, du célibat, du divorce. C'était pendant les vacances et je sais qu'il y avait peu de célibataires. Si ce sont des problèmes qui vous intéressent, je vous invite à prendre des cassettes pour écouter ce que nous avons dit, des messages de Paul sur ces sujets très importants. Il y avait le problème des procès. Au lieu de s'arranger entre frères et sœurs, les chrétiens déballaient leur linge sale au grand jour devant les tribunaux civils. Il y avait les problèmes de ceux qui exerçaient leur liberté en Christ aux dépens de leurs frères qui étaient moins affermis dans la foi. C'était le fameux problème des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles que certains mangeaient sans problème et que d'autres avaient du mal à avaler en disant que ça avait traîné devant des idoles. Et dernièrement, nous avons parlé des divisions qui se faisaient jour lors du repas du Seigneur, la Sainte Cène, qui est justement un moment où nous devrions être vraiment en communion les uns avec les autres et avec Dieu. Nous avons pris la Sainte Cène la semaine dernière comme suite à cette étude. Et tous ces problèmes, en fait, on pourrait dire que c'était des problèmes liés à leur carnalité. Nous avons parlé aussi de ce que c'était qu'être spirituel, naturel ou charnel. L'homme naturel, c'est l'homme tel, c'est le petit Mathieu Lassiaille. Il est tout mignon, j'en suis sûr. Mais laissé à lui-même, il a en lui les racines du péché. Il a cette vieille nature que nous avons tous acquis de nos parents, une nature de rébellion contre Dieu. Peut-être que Thierry et Ronny ne seraient pas d'accord maintenant, mais ça prendra pas longtemps. L'homme charnel, c'est l'homme qui se laisse dominer par cette tendance de la vieille nature qui est en nous, cette tendance qui veut tout pour elle, la nature qui veut tout pour elle, c'est l'égoïsme, c'est la façon dont nous vivions avant d'être touchés par Dieu et de recevoir l'Esprit Saint qui fait de nous des hommes spirituels. Être spirituel, ça ne veut pas dire être des géants, ne jamais pécher, mais c'est d'avoir reçu cette vie spirituelle qui fait que nous sommes ouverts, nous sommes sensibles, nous pouvons communiquer avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il faut notre esprit, l'Esprit en nous, pour pouvoir communiquer avec l'Esprit de Dieu et avoir une vraie relation avec Dieu. C'est ce que Jésus expliquait à Nicodème en lui parlant de la nouvelle naissance. Il faut être né de l'Esprit pour comprendre les choses de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et tous ces problèmes, c'était en fait parce qu'ils laissaient libre cours à leur vieille nature. Ils étaient soumis au désir de cette vieille nature. Et cette vieille nature, elle est hostile à la communion avec Dieu. Paul nous l'explique aussi dans Romains, qu'il y a incompatibilité totale entre notre vieille nature et ce que Dieu attend de nous. Et au chapitre 12, Paul va passer des problèmes charnels dans ce sens. Il va passer aux choses spirituelles. Lisons les versets 1 à 3. Chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les pages 196 dans la Bible à la colombe, vers dans la deuxième partie, la fin du Nouveau Testament. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Si vous lisez dans la Bible à la colombe, vous verrez que le mot « don » est entre parenthèses. Et ça veut dire, dans l'édition de la colombe, ça signifie que le mot n'est pas dans le texte original, mais qu'il a été rajouté par les traducteurs pour faciliter la compréhension. Et il est vrai que des fois ça facilite la compréhension, des fois ça peut déformer un peu le sens original. Et Paul ne parle pas, c'est pas vraiment des, il va parler des dons spirituels, mais là il a parlé des problèmes de leur carnalité. Maintenant il va parler des choses, une meilleure traduction serait des choses spirituelles. C'est le mot pneumatikoi qui veut dire les choses pneumatiques. Pneuma en grec, c'est le souffle, c'est l'air. Le Saint-Esprit, c'est le pneuma, c'est le souffle de Dieu. Ça rejoint le ruar de l'hébreu, qui est le souffle divin. Et bien sûr, nous avons les voitures ont des pneumatiques parce qu'il y a de l'air dans ces bouts de caoutchouc qu'on met autour des roues. Et donc, Paul ne parle pas de pneus, il parle de choses spirituelles. Et il nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Et quand on dit à quelqu'un « je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance », c'est parce qu'il y a ignorance qui a été constatée. Malheureusement, on peut dire que dans ce domaine des choses spirituelles, il y a encore beaucoup d'ignorance et de confusion aujourd'hui. Certaines des choses que Paul veut corriger sont prises comme des choses qui sont bonnes dans certains mouvements et nous ne prétendons pas avoir la parfaite compréhension de toutes ces choses. Je vous lirai à la fin une petite traduction d'un texte qui montre un peu la position de Calvary Chapel, du mouvement sur les dons spirituels et toutes ces choses très importantes. Paul ne limite pas le ministère de l'Esprit-Saint aux dons spirituels. Et ça, c'est très important aussi pour nous, de pas croire que le Saint-Esprit c'est simplement un distributeur de dons vers lequel on va pour avoir des dons de service, des dons spectaculaires, des dons pour enseigner, etc. Le Saint-Esprit c'est une personne, c'est pas une force dans laquelle on puise. Le Saint-Esprit est une personne, il a tous les attributs de la personnalité. On n'a pas le temps de faire l'étude, ça serait un autre sujet d'étude. Il éprouve des émotions, il dirige, il peut être attristé, il nous parle. C'est une personne et cette personne est aussi Dieu. Le Saint-Esprit dans la Bible a tous les attributs de ce que constitue la divinité, la création, l'auto-existence. Le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'un simple distributeur de dons. Paul continue en disant « Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. » La question, en fait, dans notre vie, c'est « Qu'est-ce qui nous dirige ? Qu'est-ce qui nous mène ?» Pour beaucoup de nos contemporains, ce sont des idoles muettes. Nous en parlerons un peu plus loin. Parce qu'une idole, c'est pas seulement une... On l'a répété et répété plusieurs fois déjà il y a quelques semaines. Une idole, c'est pas seulement une statuette, une image que l'on vénère. C'est encore une fois tout ce qui prend la place qui doit revenir à Dieu dans notre vie. Et cette place, c'est la première place. Une idole, c'est tout ce qui va nous contrôler. C'est tout ce qui va nous posséder, ce qui va prendre notre temps, nos ressources, nos pensées, nous accaparer l'esprit, qui va diriger notre façon de penser. Et du fait qu'une idole en elle-même, c'est pas, On a vu aussi il y a quelques semaines, lorsque Paul parlait de la viande sacrifiée aux idoles, il disait ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Derrière les idoles, il y a des puissances du mal. Il y a des démons qui veulent exercer un contrôle sur nous et qui vont utiliser ces choses qui peuvent être de bonnes choses, qui peuvent être de mauvaises choses, mais même des fois des bonnes choses peuvent devenir des idoles dans notre vie. Même si elles sont légitimes, du moment qu'elles nous contrôlent et qu'elles prennent la place de Dieu, qu'elles interfèrent avec notre dévotion, notre consécration à Dieu, alors elles deviennent des idoles. Au départ, elles peuvent être petites, ça peut être des petites idoles, des idolettes, je ne sais pas. Mais si on leur laisse le temps et l'espace, elles vont prendre de plus en plus d'importance. Il parle des idoles muettes. C'est vrai que ce qui frappait David dans ses psaumes, c'était qu'il disait, mais vous agenouillez devant des choses que vous avez fabriquées vous-même. Vous prenez un morceau de bois, vous le taillez, vous y mettez des yeux, mais des yeux qui ne peuvent pas voir, c'est deux pierres ou deux yeux perfectionnés, mais qui ne peuvent pas voir. Des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Une bouche, mais elle ne vous parle pas. Et aujourd'hui, il y a des idoles muettes et des idoles non muettes. On peut penser à la musique. La musique peut être une idole. La musique, le cinéma, la télé. Il y a d'autres idoles aussi, comme l'argent, le pouvoir, les plaisirs, le sexe, les études, la célébrité, les sports. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'éclat dans le regard. Tout ça, ce sont des idoles. Et l'idolâtrie, elle conduit toujours à la destruction. Parce que derrière ces idoles muettes, il y a des puissances de destruction. Il y a l'ennemi, le diable, Satan, une personne réelle, pas une imagination d'image d'épinal, pas une image d'épinal en survêtement rouge avec les talons, la fourche et la longue queue fourchue. Non, non. Le diable était au contraire un ange de lumière, un ange déchu, une créature de Dieu qui a voulu se rebeller contre Dieu, être le plus grand, et de là sa déchéance, et avec lui, à sa suite, un tiers des anges créés par Dieu l'ont suivi. Et ce sont ces anges qui sont les démons et qui sont derrière toutes les choses qui nous écœurent, qui nous surprennent dans le monde. On voit les guerres, on voit la violence, la corruption. Il y a des forces du mal derrière toutes ces choses. La semaine dernière, on m'a encore demandé, j'étais à la librairie, je tenais la librairie une matinée, on m'a demandé quelle est la différence entre une église et une secte. Un jeune homme qui a commencé à venir, qui n'est pas là ce matin, mais sa maman lui a dit qu'on était une secte. On était lié, avec un nom pareil, on était lié à la scientologie. Je l'ai appelé pour la rassurer, lui dire, écoutez, venez voir vous-même, vous verrez qu'on n'essaye pas de profiter de votre fils. On ne lui a pas demandé d'argent, on ne lui a pas demandé de signer quoi que ce soit. On ne lui a pas demandé d'être membre parce qu'il ne nous connaît pas assez. Mais peut-être pour votre gouverne personnelle, si quelqu'un vous demande... Qu'est-ce que c'est où tu vas là? Vous réunissez dans un hôtel, ça aussi c'est pas bon ça. Hein. Ça c'est pas un avantage, un atout pour grandir. Parce que justement les sectes arrivent la nuit, elles repartent le lendemain matin, elles s'arrêtent à l'hôtel, elles repartent. Quelles sont quelques-unes des caractéristiques des sectes? C'est une petite aparté, mais je crois que c'est important puisque moi-même j'ai dû avoir parlé de ça deux fois la semaine dernière. Première chose, c'est qu'il y a souvent le culte de la personnalité. Il y a l'existence et la mise en avant d'un gourou charismatique. Alors j'espère que aucun de vous ne me voit dans cette image. Et donc je suis rassuré sur ce point. Un deuxième point, c'est qu'il y a un contrôle de la vie des gens. Il y a une espèce d'embrigadement. On commence par demander que certaines libertés soient restreintes. On ne peut plus porter tel ou tel vêtement. On doit venir à toutes les réunions. Alors bien sûr, encore une fois, je veux être clair. On n'est pas légaliste. Et on ne dit pas que si vous ne venez pas le dimanche au culte ou le mercredi aux études, vous ne faites pas partie de l'assemblée. Mais dans la mesure du possible, si vous avez soif de Dieu, vous aurez soif de vous retrouver avec vos frères et vos sœurs pour partager ensemble, pour connaître ensemble, pour se servir les uns les autres, pas se servir les uns des autres, pour grandir dans la foi. Encore une fois, on n'est pas là à pointer et à noter, mais souvent si on sent une certaine désaffection, c'est peut-être parce qu'il y a un problème plus important derrière, et à ce moment-là je vous invite à venir me parler, de me dire s'il y a des problèmes, des choses. Mais une secte va pas vous laisser tranquille. Même les gens qui sortent des sectes, ils ont la visite et la visite des personnes. Troisième point, c'est qu'il y a l'affirmation d'un pouvoir unique et spécial. Le groupe se sent dépositaire d'une mission spéciale et d'une puissance qui va lui permettre de réussir dans sa mission. Ils sont les seuls à savoir qu'à l'approche de la comète, il va falloir tous se suicider pour pouvoir partir et dans l'espace-temps retrouver le grand fondateur et des élucubrations incroyables. Et ce qui est toujours frappant, c'est que des gens très raisonnables, apparemment, des avocats, des médecins, se retrouvent dans ces sectes. Ce qui prouve qu'il peut y avoir un aveuglement par ces puissances démoniaques, qui fait que des gens qui peuvent faire preuve de bon sens dans la vie courante peuvent être complètement à côté de leur pompe, pardonnez l'expression, à côté de leur pompe dans la vie spirituelle. L'accent est mis sur l'argent, source de puissance du groupe sans lequel rien ne peut être fait. C'est vrai que l'argent est important, mais là encore une fois, c'est Dieu qui pourvoit. Si Dieu veut bénir une œuvre, un ministère, sans qu'on ait à forcer les choses, il va ouvrir les vannes du ciel, il nous dit dans le prophète Malachi. Et l'accent ne doit jamais être mis sur l'argent. Et j'espère que ici vous n'avez jamais senti qu'on vous forçait la main pour mettre la main au portefeuille ou porte-monnaie. Vous donnez, la Bible est très claire, selon votre cœur, libéralement, ça doit être inspiré par l'Esprit Saint. Un autre aspect des sectes, c'est qu'il y a souvent des luttes, des jalousies incessantes. Il n'y a pas l'amour véritable les uns pour les autres. Les membres sont utilisés par les responsables qui ont un agenda différent de ce qu'ils présentent à l'Assemblée. Puis un élément très important, c'est que la Bible n'est pas du tout respectée. Elle est rabaissée, mise au rang d'un autre livre parmi d'autres livres sacrés. Elle est souvent abrégée, des fois déformée, falsifiée, des fois allongée. On la complémente par un autre livre. Il y a la Bible, d'accord, mais il y a le livre de Mormon qui va vous permettre de tout comprendre. Ici, nous n'avons qu'un seul livre, la Bible. Nous pouvons avoir d'autres publications qui peuvent vous enrichir, vous aider à la comprendre ou suggérer certaines choses. Mais encore une fois, cherchez à connaître ce que dit la parole de Dieu, ce que dit la Bible, ce que dit Dieu. Encore une fois, la Bible, quand on l'étudie de près, on voit que c'est un livre extraordinaire. Plus de 1500 ans pour avoir été écrit. 40 auteurs de tous les milieux humains, 3 langues, 3 continents, et pourtant une unité qui converge et qui explose à partir de Christ. Tout va vers la croix et tout démarre de la croix dans le Nouveau Testament. Donc voilà quelques points. Si on vous dit que vous êtes tombé dans une secte, et je crois que de plus en plus, tout ce qui n'est pas catholique, comme on le dit en France, sera considéré comme une secte. Le gouvernement français a mis la plupart des mouvements évangéliques sur la liste des sectes. Je ne pense pas qu'on y soit encore, peut-être que si maintenant. On a eu la visite de gens des renseignements généraux, mais les baptistes, les assemblées de Dieu, des mouvements établis, reconnus, tout à fait intègres et bibliques, sont considérés comme sectes. Soyez prêts à dire ce qu'est une église et ce qu'est une secte. Verset 3, c'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Paul était un grand logicien, un grand intellect, et on voit que là il a un raisonnement très fort avec deux affirmations complémentaires. Il dit en effet, nous ne pouvons pas dire du mal de Jésus si le Saint-Esprit est en nous, et même nous ne pouvons pas dire du bien de Jésus si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, ça veut dire, anathème c'est maudit, ça veut dire que nul ne peut dire maudit soit Jésus s'il parle inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est absolument impossible de dire du mal de Jésus-Christ si le Saint-Esprit est en nous. On peut se demander pourquoi est-ce que Paul parle de ce sujet à ce moment. Ça n'a pas l'air de... Et dans le Deutéronome 21-22, il était dit que tout homme pendu à un arbre ou à un bois était un objet de malédiction. Il ne fallait pas le mettre sur le sol parce que ça aurait causé la souillure du territoire que l'Éternel, leur Dieu, leur avait donné pour héritage. Son cadavre ne devait pas passer la nuit sur le bois. Il devait être enseveli le jour même. Bien sûr, là, on retrouve des choses qui ont été mises en application pendant la crucifixion de Jésus-Christ. Parce que l'image de, on voit un homme pendu plutôt avec une corde, mais pour les Juifs aussi, un homme crucifié était un homme pendu au bois. Il était pendu sur un arbre, en quelque sorte. La croix était un gros tronc d'arbre, Eka Malekari. Et Paul lui-même dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça ne parle pas de nous qui disions... Je maudis Jésus, non, ça veut dire que Christ, dans son humilité, dans son amour, a accepté de recevoir la malédiction, la punition que nous méritons, que nous méritions. C'est la merveille de la croix, c'est le grand mystère de Dieu qui prend notre place pour recevoir notre punition, afin que nous puissions prendre la sienne, être déclarés complètement purs, justes par le Seigneur, par son Père. Et donc, les Juifs qui avaient vu Jésus pendu au bois disaient, ben, il est bien maudit, maudit soit Jésus. Et Paul dit, non, on ne peut pas dire ça. On sait que Paul lui-même avait forcé les chrétiens à blasphémer. Paul explique dans Actes qu'il forçait les chrétiens à blasphémer contre Jésus-Christ. Sinon, il les mettait à mort, il les poursuivait, il était leur plus farouche persécuteur. Avant sa grande conversion sur le chemin de Damas. Donc Paul peut-être a eu à faire dire aux gens « Maudit soit Jésus ». On sait que ça doit lui peser dans le cœur d'avoir été ainsi, mais il sait qu'il est une nouvelle personne en Christ. On sait aussi que pendant les persécutions de l'Empire romain, il y a eu une dizaine de grandes persécutions. On demandait aux chrétiens de maudire Jésus-Christ, et de dire que l'empereur était le Seigneur. On raconte qu'il y avait un des pères de l'Église, c'est-à-dire un des premiers grands responsables de l'Église, en Asie mineure, Polycarpe, qui était le pasteur de l'Église de Smyrne, lorsqu'on l'a forcé à renier Dieu, avait dit « Cela fait 86 ans, il était vieux, que je sers Christ, il ne m'a jamais fait de tort. » Comment pourrais-je maudire mon roi qui m'a sauvé ? Résister devant la persécution. Aujourd'hui, beaucoup de sectes déforment la Bible. Et un des aspects des sectes, peut-être j'ai oublié de souligner, c'est très important, c'est qu'ils minimisent la position de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est peut-être le Fils de Dieu, c'est peut-être un grand prophète, c'est peut-être un grand gourou, mais il n'est pas Dieu. Alors que la Bible indique clairement que Jésus-Christ est Dieu, au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et beaucoup de ces sectes disent que non, Jésus n'était qu'un homme, certes sage, mais dire qu'il n'est qu'un homme, ça revient à le maudire, parce que à cause du péché originel, toute la race humaine a été en quelque sorte maudite. Mais on sait que Jésus, lui, est né d'une vierge qui n'a pas été polluée par le péché humain, et qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Il a été tenté en toutes choses, mais jamais il n'a péché. Dans le contexte, en fait, des dons spirituels, on peut penser aussi qu'il y avait peut-être une rumeur à Corinthe où on disait que quelqu'un avait parlé en langue. Les langues, c'est une langue que l'on parle sans l'avoir jamais apprise, que les autres autour de nous ne parlent pas, mais que quelqu'un peut interpréter s'il a le don d'interprétation. Et sans doute, on disait qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé en langue et que quelqu'un avait interprété et qu'en fait, c'était des blasphèmes contre Jésus. Et souvent, on a cette peur dans certains milieux chrétiens, ce genre de rumeur, de s'ouvrir au Saint-Esprit. On a une théologie bien établie, on sait que on croit en la Trinité, on y reviendra, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit vient en nous, à la conversion, mais on laisse les dons, surtout les langues et tout ça, à ces mouvements un peu extrêmes, et ces divisions de ces conceptions différentes ont conduit à beaucoup de divisions dans l'Église, qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui font sans doute très mal au cœur au Saint-Esprit lui-même. Mais souvent dans ces églises, on dit oh là là, faut surtout pas prier pour recevoir le Saint-Esprit, parce qu'on peut s'ouvrir aux démons. On peut s'ouvrir aux démons et au lieu de recevoir le Saint-Esprit, tu vas recevoir des démons qui vont t'enchaîner. Et ça, c'est une rumeur qui est jamais bien circonstanciée. On dit oui, j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait vu ça se passer à tel endroit. Et ça tient au blasphème de dire une chose pareille. De dire que si on demande à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement une expérience unique. Nous devons continuellement être en train d'être remplis du Saint-Esprit. Croire que Dieu va dire, tiens, ben, cette fois-ci, je ne vais pas envoyer le Saint-Esprit, on va laisser les démons entrer, on va bien rire. C'est tellement une fausse idée, une idée blasphématoire quant à la personnalité et à l'amour de Dieu, d'autant qu'on sait que Jésus lui-même a fait cette remarque. Il a dit, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, il lui donnera un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nancy me parlait de Thierry qui donnait le biberon à Mathieu l'autre matin. Et je peux vous garantir que le petit avait pleuré, il avait demandé à manger. Et Thierry n'avait pas été se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme boisson toxique? On va lui donner de l'alcool pour voir comment il réagit. Non, avec tendresse et un soin jaloux, il a cherché à satisfaire ce besoin de nourriture avec Mathieu. Et d'imaginer que nous qui sommes imparfaits, nous qui pouvons répondre avec tant d'amour à nos enfants, lorsqu'ils nous demandent à manger, c'est vrai que si mes enfants me demandent une glace, deux glaces, trois glaces, je vais peut-être dire assez, mais je ne vais pas leur donner des scorpions ou des rochers ou des... À combien plus forte raison le Père Céleste va-t-il donner l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? On parle des dons de l'Esprit, mais ce qui est plus important encore, c'est le don de l'Esprit. C'est de recevoir l'Esprit Saint que nous recevons à la conversion. Et nous avons déjà vu dans l'étude des actes que nous pouvons demander aussi que Dieu nous donne l'Esprit Saint, qu'il survienne sur nous pour nous rendre capables d'être ses témoins. Nous y reviendrons. Et donc Paul part d'un côté et il dit à l'inverse, nul ne peut dire Jésus le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire du bien de Jésus si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Et c'était justement ce que, lorsqu'on persécutait les chrétiens, on leur disait de dire non, c'est pas Jésus qui est Seigneur, c'est César qui est Seigneur. C'est César qui est le Maître. Et cette phrase, en fait, c'est une chose qui doit nous encourager tous terriblement, terriblement, de façon formidable, de façon merveilleuse. Parce que si nous pouvons dire de tout notre cœur, sincèrement, que Jésus, en fin de compte, est le Maître, que je veux que ma vie lui remettre ma vie, que tout ce qui se passe dans l'univers, en fait, c'est lui qui, de façon ultime, le contrôle, même si maintenant on voit que toutes choses ne sont pas encore soumises à son pouvoir, ça c'est Hébreux 2:8, il va revenir, mais c'est lui qui contrôle, en fin de compte, toutes choses. Si je peux sincèrement dire dans mon cœur que Jésus c'est vraiment le patron, c'est vraiment le Seigneur, il est qui il est Dieu, il m'aime, il est mort pour moi, alors je peux être assuré que le Saint-Esprit est en moi. Certains des fois se disent, mais je ne le sens pas, j'ai pas. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, est-ce que tu es ton sauveur, est-ce que tu veux le servir, est-ce que même si tu pêches, même si tu chutes, est-ce que tu as du remords, est-ce que tu veux progresser, est-ce que tu veux étudier sa parole, est-ce que tu veux prier, est-ce que tu veux grandir en lui, à ce moment-là, oui, je peux être assuré que l'Esprit Saint est en moi. Alléluia. C'est une chose merveilleuse. Alors vous direz, bien sûr, on peut forcer quelqu'un à dire Jésus est Seigneur, on peut dire les paroles Jésus est Seigneur. Mais Jésus lui-même a dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Et il dit que ceux qui lui diront, mais nous avons fait des miracles en ton nom, il leur dira, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ces deux affirmations, en fait, sont en accord avec la vérité que nous trouvons dans toute la Bible, que le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu dans le monde pour l'exalter, pour le magnifier, pour le mettre en haut devant nous, pour mettre le projecteur sur lui. Des versets, par exemple, Jean 15-26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Il n'est pas dit qu'il rendra témoignage de lui-même, il rendra témoignage de Jésus. Jean 16:13 dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il prendra, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14, Jean 16:14, lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de montrer Jésus. Ça aussi, c'est une chose très importante, parce que dans certains milieux chrétiens, et c'est à juste titre qu'il y a eu peut-être un mouvement de balancier, on s'était éloigné des choses du Saint-Esprit. On pensait que les dons de l'Esprit, c'était une chose réservée aux chrétiens du premier siècle qui n'avaient pas encore la Bible imprimée, la Bible complète. Et donc, il y a eu un espèce de retour, de mise à l'écart de l'Esprit Saint et de tout ce qui avait trait à lui. D'autres milieux ont voulu remettre l'accent sur l'Esprit Saint, sur sa puissance nécessaire à notre vie, sur les dons qu'il nous donne. Mais en faisant cela, il y a le danger de mettre l'accent seulement sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit dire là, non, 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 c'est pas moi, c'est lui Jésus. L'accent doit être mis sur Jésus. Et ça, c'est très important. Tout ce que fait le Saint-Esprit, ça vise à glorifier Jésus-Christ. Les dons qu'il nous donne, c'est pour le glorifier, pour le servir. L'enseignement qu'il nous donne, c'est pour que nous comprenions. Encore une fois, il est dit que ce qu'il nous apprend, ce n'est pas des choses qu'il a inventées, c'est des choses qui viennent de Jésus-Christ. Lisons la suite. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ici, le mot don est bien présent, c'est le mot grec charismata, devient le mot charismatique, et les dérivés extra-charismatiques, hyper-charismatiques. Donc ce sont ces églises qui ont remis en valeur les dons, la personne du Saint-Esprit. Ce mot charismata vient du mot charis. Le mot charis, c'est le mot que nous traduisons grâce. Et donc les dons de Dieu sont des grâces qui sont données librement par Dieu. Et on sait que la grâce, c'est la faveur non méritée que nous recevons de Dieu. Nous ne pouvons pas mériter son amour et pourtant il nous aime. Nous ne pouvons pas donc nous vanter d'être aimés par lui parce que ça n'a rien à voir avec nos mérites propres. Et donc il est très important de se rappeler que quand on reçoit des dons spirituels, c'est pas parce que nous sommes une personne particulièrement avancée dans la connaissance de Dieu, c'est pas parce que nous sommes une personne spéciale, parce que nous sommes plus entre guillemets spirituels que le voisin, parce que nous en sommes dignes, parce que nous avons fait vraiment quelque chose pour le mériter. Nous avons tous les matins levé à 4 heures, prié pendant 2 heures et j'ai reçu ce don. Non. C'est simplement Dieu qui, dans sa grande bonté, dans son grand amour, le veut bien. Et la seule qualification pour recevoir ces dons, c'est d'appartenir à son corps, à l'Église. D'avoir mis sa foi en Jésus-Christ, d'être né de nouveau, d'être né d'en haut. Et si Jésus-Christ est aujourd'hui votre maître, votre sauveur, vous êtes assez bon pour recevoir des dons. Nous verrons plus loin que même Paul affirme, l'Esprit de Dieu qui l'inspire, nous affirme que chaque chrétien a reçu au moins un don. Diversité, et ces versets parlent de la diversité d'un côté et de la similitude, le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu. Et c'est vrai que, il suffit de nous regarder, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, nous sommes tous différents. Les sectes aussi, un aspect, c'est que souvent, ils vont tous avoir la même dégaine, la même allure. Ils vont tous être des clones. Ils vont tous porter la même robe, tous la même longue tresse avec un crâne rasé, le même tambourin dans la rue. Pourquoi c'est le clonage, c'est l'uniformité, l'uniformisation. Je ne sais pas si ça existe. Dieu nous prend tel que nous sommes. Nous sommes tous différents. Dieu se plaît à la diversité. Il suffit de regarder les encyclopédies d'insectes. Je crois que on connaît peut-être, je sais pas, je vais dire un chiffre, on connaît peut-être 200 000 variétés d'insectes et il paraît qu'il y en a encore 600 000 à découvrir, notamment dans la forêt amazonienne avant qu'elle ne disparaisse. Dieu se plaît à varier les genres. On verra en étudiant plus avant les dons qu'il y a dix à 20 dons qui sont répertoriés, qui n'ont pas l'air d'être une liste exhaustive. Mais si chacun de nous a un de ces dons, ça fait un seul don, ça fait déjà 20 genres de personnes avec des dons. En plus des dons, notre personnalité naturelle, ça fait au moins 20 genres de personnes. Mais après ça, il y a des gens qui reçoivent 2 dons. Donc ça fait une combinaison. Et là, c'est des mathématiques combinatoires. On arrive très vite à des nombres très très grands, des millions de possibilités, suivant qu'on a tel ou tel don. Donc, ne soyons pas surpris de la diversité que nous voyons. telle personne va être prêt à servir dans tel domaine, mais n'aimera pas l'autre. Moi qui ai des dispositions inverses, ça ne veut pas dire que je suis mieux ou qu'elle est moins bien que l'autre personne. Dieu reconnaît notre personnalité et se complaît dans la diversité. Et cette diversité, elle est source de richesse, elle est source de ressources. Et ces versets parlent aussi de l'unité en Dieu que nous avons en tant que chrétiens. Elle parle aussi de l'unité en Dieu, ce qu'on appelle la triunité ou la trinité. C'est pas un mot qui figure dans la Bible, mais c'est un concept qui est présent clairement dans la Bible. Et là, nous voyons que dans cette distribution, dans cet exercice des dons, les trois personnes de la Trinité sont à l'œuvre. Il y a le Saint-Esprit qui accorde les dons, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. C'est lui qui, à chacun sans exception, versets 7 et 11, donne des dons. Et c'est triste quand on ne retire pas un cadeau. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé un cadeau, les gens n'ont pas été le retirer à la poste. C'est un grand gâchis. Hélène n'a jamais eu ce problème. Le Saint-Esprit nous donne des dons et nous devons être curieux, nous devons être intéressés de savoir quel est ce don qu'il m'a donné, si on ne le connaît pas déjà, ou ces dons qu'il m'a donné, prier pour qu'il nous donne d'autres dons. Un don, en fait, c'est quelque chose qui va rendre notre vie passionnante, qui va faire que nous allons avoir une aventure, un but à remplir pour sentir que nous appartenons à l'ensemble, à la plénitude. Le Seigneur Jésus-Christ, diversité de services. Les services, c'est le mot qu'on traduit en français par diaconat. Autrement dit, c'est le Seigneur Jésus qui ouvre des portes pour que nous puissions exercer ses dons. Et souvent, les gens attendent que le pasteur ou l'église leur demande de servir à l'église en tant que ceci ou cela. Mais si c'est Dieu qui vous a donné le don, votre responsabilité, elle est vis-à-vis de Dieu. Vous pouvez peut-être avoir un don de service. Et vous pouvez déjà, dans votre entourage, dans votre famille, dans votre voisinage, vous pouvez exercer ce don et le mettre au service de Dieu, c'est-à-dire faire ces choses en faisant savoir que vous les faites parce que Dieu vous anime, en recevant les compliments en disant « Oui, c'est vrai, je suis très gentil. Je suis... Voilà, oui, si tout le monde était comme moi, ça serait plus facile, je sais. » Il faut commencer là où vous êtes. Si vous avez un don d'enseignement, ça commence pas en enseignant la Bible le dimanche matin, ça commence en parlant avec ses enfants de la Bible, ça commence avec des voisins en disant « Tiens, tu veux faire une petite étude ?» Ça commence en partageant la parole avec d'autres. Et puis c'est Dieu le Père qui procure la diversité d'opérations. En fait, le mot « opération », c'est le mot « énergisation ». C'est lui qui va donner l'énergie, la puissance. C'est lui qui va décider du sort de ses activités. S'il veut que votre ministère qui a commencé à aider votre voisine en lui donnant un peu de nourriture se développe en un ministère international, c'est sa volonté, c'est sa prérogative. Ça restera peut-être quelque chose de très discret, mais ce qui compte, c'est que vous exerciez ce don. Et nous terminerons par le verset 7 qui dit que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don de l'Esprit, c'est pas pour m'amuser avec des pouvoirs surnaturels. C'est pour le mettre au service de tous, le mettre au service de la communauté. Le mot pour l'utilité, c'est ce qui profite, ce qui procure un bénéfice, un gain, un avantage. Et la manifestation, le mot, ça veut dire se révéler, s'éclairer. Comme s'il y a des rayons de lumière qui font rendre une chose apparente ou évidente. Vous vous souvenez, lorsque les frères de Jésus disaient à Jésus « Manifeste-toi au monde », c'était le même mot. Et nous savons que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de se manifester aux hommes. Il les a créés, il aspire de tout son être, de toute sa divinité à avoir une relation intime et profonde et réelle avec chacun des êtres qu'il a créés, des hommes et des femmes qu'il a créés. Et il veut communiquer, il a tout fait pour ça. il a envoyé les prophètes, il a envoyé sa parole, il a finalement envoyé son Fils. Il est venu en la personne de son Fils, on peut dire. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la raison de l'incarnation. Et l'objectif des dons, c'est pas d'attirer l'attention sur nous et sur nos capacités, mais c'est de manifester la présence de Jésus-Christ dans ce monde, dans l'Église. L'Église, c'est son corps. Son corps doit le manifester. Et si nous ne manifestons pas cette puissance de l'Esprit-Saint, cette puissance de Dieu, alors le monde ne connaît pas Christ. Le monde ne connaît pas Dieu. Vous avez peut-être chez vous un bon compteur électrique de 120 volts, 1000 watts, je ne sais pas, 2000 watts. Et en fait, c'est une puissance considérable. Mais si vous ne venez pas avec un appareil ou une machine pour recevoir cette énergie, vous allez vivre comme si vous n'aviez rien. Vous allez vivre avec une bougie en disant c'est bien, j'ai un bel appartement, il n'y a pas de chauffage, mais c'est chez moi et les gens ne sauront pas que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Alors encore une fois, gardez-vous de croire, de considérer, c'est peut-être un mauvais exemple à utiliser en fait, parce que ça peut faire croire que l'Esprit-Saint, c'est une puissance électrique, on se branche et on reçoit et on peut faire des tas de choses. Non, l'Esprit-Saint, encore une fois, est une personne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des églises, justement, on ne veut pas toucher aux dons, aux choses spirituelles, des dons de l'Esprit, de la personnalité de l'Esprit-Saint. Et John Wesley, qui a été à l'origine du renouveau méthodiste, du réveil méthodiste en Angleterre et aux États-Unis, a dit « C'est parce que l'amour de beaucoup de chrétiens s'est refroidi que la puissance des dons de l'Esprit ne se voit plus. » Les dons, c'est pour que les gens réalisent que oui, Dieu est vraiment présent au milieu de nous. Un verset que nous reverrons plus loin dans 1 Corinthiens 14, c'est que tous ces dons soient exercés pour l'édification, pour bâtir l'Église, pour bâtir le corps de Christ. Quelqu'un dit, les dons ne sont pas des jouets avec lesquels on s'amuse, ni des moyens de rechercher sa propre gloire. J'ai le don de guérison, venez mardi soir, vous allez voir, je vais tout guérir. Non, ce sont des outils avec lesquels on bâtit. Le danger, c'est que si on ne les utilise pas, si on ne les exerce pas dans l'amour, alors à ce moment-là, ils deviennent des armes avec lesquelles on se bat. Et ça doit attrister le Saint-Esprit comme rien d'autre. Que les dons qu'il nous donne, c'est un peu comme quand on donne des cadeaux à des enfants et qu'ils se disputent avec ces dons, qu'ils se battent, qu'ils se les jettent au visage. À une échelle bien plus spirituelle et plus grandiose, ça doit être terrible pour le Saint-Esprit. Nous verrons la semaine prochaine une première liste de dons. Et juste pour terminer rapidement, un passage qui montre la place du mouvement Calvary-Chapelle. Et qui dit, d'une façon générale, on peut dire que dans la théologie protestante, le mouvement Calvary-Chapelle se situe à mi-chemin entre le fondamentalisme et le pentecôtisme. Le fondamentalisme, c'est la mouvance du protestantisme qui reste attachée à l'interprétation littérale de la Bible, parce qu'ils croient que la Bible est inspirée par Dieu sans erreur, et donc ils mettent l'accent sur les éléments fondamentaux de la foi. Alors les médias modernes et l'Église libérale méprisent les fondamentalistes comme étant rétrogrades et stupides, mais c'est en vérité grâce à eux que la Bible nous est parvenue intacte, que la qualité de la parole de Dieu a été conservée jusqu'à aujourd'hui, que nous connaissons les doctrines essentielles de la foi chrétienne originale. Le pentecôtisme, en tant que mouvement moderne, c'est né du réveil d'Azusa Street en Californie, à Los Angeles, au début du XXe siècle. Et ça a engendré des dénominations qui mettent l'accent sur la plénitude du Saint-Esprit. Ma langue a fourché. La plénitude du Saint-Esprit et l'exercice des dons spirituels que beaucoup d'églises, que la plupart des églises avaient mis de côté, oubliés, abandonnés. Là aussi, ils sont critiqués par les médias et par l'église moderne comme étant faisant trop appel aux sentiments, mais leur mérite, c'est d'avoir ramené en quelque sorte le Saint-Esprit dans l'Église avec ses dons, et d'avoir rappelé l'importance des dons et la puissance de Dieu nécessaire pour le croyant aujourd'hui. Avec les ans, le fondamentalisme, en s'attachant à l'intégrité de la parole, est devenu de plus en plus rigide et légaliste. Ils ont rejeté les dons spirituels. Parallèlement, les pentecôtistes sont devenus de plus en plus enthousiastes, émotionnels, et au détriment, des fois, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, Calvary Chapel, d'après Chuck Smith, se voit un peu à l'équilibre entre ces deux tendances. Il dit que nous croyons au don du Saint-Esprit, du Saint-Esprit mentionné dans les Écritures, et nous croyons qu'ils sont toujours valables aujourd'hui, pour autant qu'ils soient exercés selon les lignes directrices de la Bible. En tant que croyants, nous sommes appelés à désirer vivement les dons les meilleurs pour nous efforcer de les pratiquer avec amour, afin que le corps tout entier puisse être édifié. Et il ajoute, et c'est très important, nous croyons que l'amour est plus important que les dons les plus spectaculaires, et que sans cet amour, toute pratique de dons spirituels est dénuée de valeur. Amen. Nous allons continuer donc à parler de ces dons, mais toujours en voyant que la chose essentielle, la chose principale, la personne principale, c'est la Seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie personnelle, parmi nous, dans notre Église, notre prière, c'est qu'un jour il soit dans tout notre pays, il y a un mouvement de retour à la Seigneurie de Christ. J'étais un peu long, je vous en demande pardon. Et encore, il n'y a pas eu de traduction. Merci Zoé. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es notre raison d'être. Tu nous as créés pour avoir une relation d'amour avec toi, et toute chose qui nous en détourne peut devenir une idole, Seigneur, mais tu nous gardes. Seigneur, et tu nous assures aussi que nous t'appartenons, parce que si nous pouvons dire que nous t'aimons, que tu es notre maître, que nous t'obéissons, même si nous chutons de temps à autre, Seigneur, mais nous nous repentons, nous voulons grandir avec toi, alors, Seigneur, tu nous dis que c'est la preuve même, la preuve indéniable, que tu es en nous par ton Esprit Saint. Et Seigneur, notre prière, c'est que par cet Esprit Saint, tu nous aides à devenir de plus en plus comme toi. Que l'amour que tu as déversé dans nos cœurs par ton Esprit, Seigneur, il grandisse. Il se manifeste par le service les uns pour les autres, Seigneur, et nous te remercions